Hairy Bikers here. This message goes out to something very special.
Yes, we're talking to you, chicken.
Maybe we've been seeing too much of each other.
But times have changed, Dave.
We've been cheating on meat.
Thing is, no stocks make veggie dishes so irresistible that cheating on meat is proper tasty.
Our dear chicken, you were the fire in my life, but it's all about you now, aubergine katsu curry. Prepare to be wined and dined, my love.
Cheat on meat with no veggie stocks.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, bien sûr, avec vous, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Roten, avec Julien Laurence, qui est toujours avec nous pour conclure notre page anglaise. Adriano Rey qui a nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir à tous et merci pour l'invitation.
Vous êtes bienvenue. Avec toi, on va parler de ce doc à voir, toujours en replay sur RMC Sport concernant les grandes erreurs d'arbitrage dans l'histoire du foot. Mais d'abord, il faut qu'on finisse.
J'ai aucune idée des chiffres.
Bon alors.
Il faut qu'on finisse l'Angleterre. Et puis j'ai une info importante à vous donner. Point médical du PSG à l'instant après le match de Reims. Marquinhos blessé aux ischio sera absent 3 semaines. Docteur Roten.
Bah 3 semaines, c'est une petite élongation.
3 semaines, ça nous amène à quelques jours du match aller. Hein.
Ouais. Ouais, c'est une petite élongation.
Et bah peut-être qu'il jouera pas.
Donc je pense qu'il jouera et tout va être fait. Mais 3 semaines, c'est par précaution. De toute façon, aujourd'hui, quand ça saigne un peu, t'es obligé de t'arrêter au moins une quinzaine. Avant 3 semaines, il t'annonçait 6 semaines, le double. Donc maintenant, t'imagines, t'as divisé par deux quand tu te fais une petite déchirure. Donc voilà, ça aurait pu être plus grave, donc 3 semaines, c'est pas dramatique. Puis comme dit Daniel, aujourd'hui t'as un effectif qui peut compenser l'absence de Marquinhos, donc il y aura pas de souci particulier. Mais il sera là, tu verras.
Bon, bah écoute, à suivre. En tout cas, voilà le point ce soir. Bon, c'est quand même Marquinhos, c'est pas le mec du bout du banc, quoi. Donc faut suivre de près.
Non, mais bon, 3 semaines. Attends, il pourra rejouer certainement le match avant Dortmund. Donc, il n'y aura pas de problème.
Julien, tu es toujours avec nous. On voulait quand même que tu nous dises un mot de Manchester United, parce que on en parlait la semaine dernière. C'est marrant, jeudi dernier, en expliquant que finalement, l'objectif économique de United aujourd'hui était sans doute prioritaire par rapport à l'aléa sportif. Là, la gronde commence à monter. Et on disait la semaine dernière que le seul truc qui pouvait, on va dire, gripper la machine, c'est si vraiment il y avait une grosse fronde des supporters. Ça commence quand même à chauffer. Hein.
À force de le dire, ça commence à chauffer quand même. Hein.
Ouais, alors hier effectivement c'était triste de voir Old Trafford comme ça à 5 minutes de la fin du match contre Burnley où Manchester United est mené 2-0 et le stade est à moitié vide, peut-être même aux trois quarts vide, parce que tout le monde est parti, parce que ils ont longtemps crié, ils ont longtemps chanté, pardon, contre la famille Glazer, donc les propriétaires du club. Ils ont même aussi chanté et malheureusement des chants très durs envers Ed Woodward, qui est donc la personne qui dirige ce club au jour le jour, des chants où ils espéraient sa mort. Donc des choses qu'on veut pas entendre dans un stade, même si t'es frustré contre ta direction, même si tu détestes ton propriétaire ou ton président ou ton directeur sportif ou n'importe qui, c'est pas des choses à chanter, des choses qu'on aime entendre. Mais c'est vrai qu'effectivement la fronde monte. Alors je vous rassure, hein, l'action de Manchester United est aujourd'hui plus élevée qu'elle n'était il y a 4 semaines. Donc je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas ils continuent à gagner plus d'argent qu'ils le faisaient il y a un mois. Donc à ce niveau-là, au moins les propriétaires, c'est incroyable. Donc à ce niveau-là, ils continuent à gagner de l'argent.
Ouais, ça
sur le terrain,
ça monte.
C'est ce qu'on disait.
Et après, s'il y a encore 2-3 événements comme celui d'hier soir, d'un coup, en revanche, ça peut clairement s'écrouler.
Sûrement, mais ça fait 7 ans qu'on dit ça et ça fait 7 ans qu'ils continuent à gagner de l'argent avec le club le plus riche du monde. Ça fait 7 ans que les problèmes s'amoncellent et que rien n'est réglé de par le haut déjà. Et ça fait 7 ans qu'ils font du surplace. Depuis le départ de Ferguson en 2013, l'arrivée de Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est les mêmes problèmes. C'est un recrutement qui laisse à désirer, où ils font n'importe quoi avec leur argent. C'est un club qui n'a plus de direction, qui ne sait plus où il va, qui n'a plus de philosophie, qui n'a plus d'idéologie. C'est très dommage, c'est très triste. Mais tant que ça ne changera pas en haut du club, que ce soit chez les Glazers ou Ed Woodward ou sous Ed Woodward, ça n'avancera pas non plus. Et même si Solskjaer, pour moi, n'est pas l'homme de la situation du tout, tu dois commencer à reconstruire ce club par le haut et ensuite avec ton manager.
Égalisation de Wolverhampton, Julien, à l'instant.
Alors, je viens de voir ça, effectivement, à l'instant. Liverpool qui, ces dernières semaines, avait plutôt l'habitude à s'endormir un petit peu sur ses lauriers quand il menait au score. On l'avait vu notamment contre Tottenham, où ils avaient failli se faire rattraper en fin de match. Et c'est vrai que ça leur pendait un petit peu au nez. Et dans ce match-là, contre Wolverhampton, qui est vraiment une très bonne équipe, eh ben, ça les a rattrapés, surtout depuis la sortie de Sadio Mané, où c'était beaucoup plus difficile pour eux offensivement.
Tiens, derrière Daniel, si vous êtes sur RMC Sport News, on a mis une belle photo de Traoré en question, là.
Il fait de la muscu, là.
C'est lui qui fait la passe d'aise pour Jiménez, d'ailleurs.
Hein. Ouais, exactement. Avec son numéro 37, là, on le voit. Pam. Voilà sur United. Ouais, pour conclure, Julien, on a démarré l'émission tout à l'heure en parlant de Payet et West Ham. Qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre?
On en dit que c'est du gros caca. Voilà, ce qu'on m'a dit ce matin. C'est du grand n'importe quoi. On m'a dit, moi je veux pas discréditer le journal et le journaliste qui ont écrit cette information. Je pense qu'ils ont des bonnes informations, sinon ils l'auraient pas écrit.
C'est du caca.
Mais recommence pas.
Pour lui, ça doit être une bonne information.
Vous êtes formidable dans votre corporatisme. Alors quand nous on dénonce le
corporatisme. Tu m'as pas laissé finir.
Mais là, parce que c'est des cons, arrêtez de dire que c'est des bonnes infos.
Tu m'as pas laissé finir.
C'est du caca. C'est incroyable.
Tu m'as pas laissé finir, Daniel. Moi, en plus, moi qui ai longtemps écrit pour le journal. Qui est en compétition avec ce journal-là, c'est pas du tout mon corporatisme du tout. Je connais pas ce journaliste-là. Je pense qu'il a pas inventé cette histoire. Il a dû l'écrire parce qu'il a dû avoir une info à un moment. Mais moi, je te dis que de mon côté, on me dit, West Ham me dit, c'est du caca. À aucun moment, ils n'ont pensé à faire revenir Dimitri Payet. Et ils insistent même sur le fait qu'il est parti en faisant la grève. À aucun moment, tu vas chercher quelqu'un qui t'a mis une carotte comme ça. Il y a 18 mois de ça. Donc voilà. Après, je défends pas du tout l'article. Je te dis juste que lui, peut-être de son côté, a ses infos. Moi, les miennes, du caca. Et à aucun moment, c'est la vérité.
Voilà. Bon. Merci, donc, Julien.
Merci. De rien. Merci, les gars. Bonne émission.
Bonne soirée. À plus.
Là, quand on critique des journalistes, toi, tu t'aimes pas ça. Hein.
Non mais moi,
c'est vrai. Non mais arrête, c'est ridicule.
Tout le monde peut se tromper.
Il a ce côté corpo.
Bah oui.
Non mais Daniel, c'est même pas tant le côté corpo. C'est je vais reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure donc, même si ça vous énerve. Il s'est trompé. L'erreur est humaine. Enfin, je veux dire, le gars n'a pas à dessein écrit un truc pourri, genre mais parce qu'il Gilbert, fallait faire une. Tu comprends?
Gilbert,
c'est ce que je vous explique.
Quand toi tu te trompes, quand nous on se trompe, quand moi je parle tous les soirs, ici,
et tu te trompes.
Les mecs, il faut. Tu crois que et en plus.
Ça nous arrive, hein.
Et en plus, on va pas. Très honnêtement, les faits depuis 10 ans nous ont tellement donné raison que.
Ça nous arrive aussi de nous tromper.
Bon.
Des fois, on donne une info, on dit tiens, il va y avoir tel mercato, tel transfert, je sais pas.
Excuse-moi, t'as déjà connu des gens qui ont pris des gants avec nous? Nous, c'est on prend le marteau, nous, pour nous taper sur la gueule.
Daniel, nous sommes
et toi, à chaque fois, c'est là, t'es. Non, on sait jamais, c'est machin. Non! Non! Non!
Nous sommes.
Non! Je ne marche pas. J'ai pas la confrérie, le corporatisme. Non, on n'a pas. On le dénonce pour les autres secteurs.
Toi-même, t'es le premier à dire qu'il ne faut jamais manquer une occasion d'être classe. Bon ben voilà.
Non mais là,
en quoi je manque de classe en disant que c'est une connerie. Mais oui, mais si j'en fais une, je dirais j'ai fait une connerie. Et t'inquiète pas, qu'on se gênera pas pour le dire, surtout sur ma gueule. Donc je vois pas pourquoi là exactement.
Ça t'arrive pas de dire des conneries.
L'histoire du car, enfin il y en a mille autres. Et si c'est de chez nous, je le dis aussi tout le temps, tout le temps.
On passe au sujet suivant. Adrien Dorey,
c'est une grosse connerie.
Et là, oui. Bon bah voilà. Effectivement, allez, c'était.
Il est dans les cordes.
On va rester dans les conneries, justement, mon petit Jérôme. Je peux le tout dans les. J'ai grand malade celui-là.
Si, mais ça se sent. Je te connais maintenant. C'est bon.
Tu sens quelque chose?
Ouais.
Tu sens mal. Donc on va rester dans les erreurs.
J'ai l'impression de voir les joueurs du PSG contre Manchester United l'année dernière en match retour.
Ouais, mais à quel moment?
Bon allez, c'est bon.
Allez, Adriano, parce qu'au début c'était pas mal. Alors, donc c'est passé sur RMC Sport il y a une semaine. Mais évidemment, c'est toujours disponible en replay. Oui. Donc, et moi, je vous le dis, ça marche très bien en replay, d'ailleurs. Puisque, oui. Voilà.
Voilà.
J'ai pas les chiffres exacts, mais les responsables m'ont dit ça marche très bien en replay.
Ok, mm-hmm.
Super.
Voilà. Sinon, en général, ils disent rien. Hein. Ça marche pas. Ouais, ouais. Ils le disent, donc c'est que ça marche. Donc, raconte-nous quel était l'objectif de ce doc et après, on va rentrer dans les détails.
Bah, l'objectif du documentaire, déjà, c'est de donner la parole aux arbitres parce que je crois pas savoir que les arbitres ont souvent droit à la parole.
Oui, bah, souvent, on les empêche de parler, d'ailleurs.
On les empêche de parler, que ce soit l'UEFA, la FIFA, les instances de manière globale.
Ou la Fédération française de foot.
C'est pour ça, ou la Fédé, enfin, ouais. Voilà, les instances. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas d'arbitre en activité. Dans le documentaire.
Ouais, c'est des mecs retirés depuis longtemps.
Ce sont des gars qui n'arbitrent plus aujourd'hui et qui avaient tout ça sur le cœur et qui avaient envie d'en parler. Donc, ces arbitres ont accepté de nous parler, mais ils nous parlent pendant 2 heures chacun. Hein. Le documentaire, on a dû un peu passer tout ça, ça dure 1h45, mais pour chaque arbitre et chaque histoire, on a 2 heures d'interview. Ils avaient envie. On les a pas forcés, hein. Ils avaient envie de parler et de dire justement, bah, enfin, merci de nous donner la parole. C'est le but. C'est
alors,
le but du
l'idée,
documentaire.
C'est évidemment, Adriano. On n'est pas en train de parler de l'erreur du dimanche après-midi. On est en train de parler d'erreurs qui ont marqué l'histoire du foot.
Oui.
De souvenirs qu'on a tous en tête, qu'ont marqué les hommes qui étaient sur le terrain, qu'ont marqué l'homme en noir, qui ont marqué sa vie à lui, qui ont même chamboulé parfois sa vie. Donc on est dans la grande histoire du football. Alors évidemment... on va te poser les questions et classique, c'est comment vous avez, pourquoi en gros 5 cas, pourquoi pas d'autres, affaire de temps, comment s'est fait le choix. Évidemment qu'on aurait, bon alors il y en a quand même des marquantes, alors aussi de peut-être du point de vue français, parce que la Manvata, ça parle peut-être pas énormément de gens en Europe, mais bon, dans la ça culture parle, française du foot, ça a marqué tout le monde évidemment.
Monsieur Von Langelov,
comme la main de Thierry Henry aussi.
Non.
Il est en Belgique et tout, il est dans le doc. C'est
il est dans le doc, mais j'ai pas vu cette partie. J'ai pas tout vu, moi.
C'est peut-être le plus touchant, d'ailleurs, Van
Langelov. Ah mince, parce que aussi, c'est le plus âgé, c'est celui qui le porte depuis le plus longtemps, et on sent que c'est celui qui a encore plus mal de porter ça. Il a 75 ans, Marcel.
Il est plus vieux que ça, dis donc.
Oh non, il a l'âge de Jean-Michel Larquet.
Il est aussi en forme que Jean-Michel. Ça veut
alors
dire
le choix, les 5, est-ce qu'il y a des cas que vous n'avez pas pu avoir et qu'on a laissé de côté? Comment ça s'est décidé?
Alors le choix déjà s'est fait évidemment, comme tu le disais, par rapport au fait que certaines de ces histoires intéressaient les Français. On a établi une sorte de grille, donc l'importance du match, les effets collatéraux, que ce soit sur le sport ou sur les arbitres et sur leur vie. Aussi un petit peu parce qu'il y a du rachat d'images, il faut le dire, hein, il y a des rachats d'images, donc on doit faire aussi un petit tri en fonction des fautes d'arbitrage qui sont effectuées en Coupe du Monde, à l'Euro, dans des compétitions que nous n'avons pas et où on doit faire aussi un choix financier et le choix final se porte également sur l'erreur qui marque tout le monde. Comme la fucking disgrace, par exemple, celle de Didier Drogba. Voilà. Ah oui. Tout le monde en a parlé, tout le monde en parle encore 10 ans après, et on s'est dit, cet arbitre, il faut aller le voir. Il y a des arbitres qui ont refusé de nous parler, par exemple, l'arbitre Charles Corver de France RFA, oui.
Évidemment, je pensais à ça.
Harald Schumacher.
Schumacher.
Alors, ça aurait été fantastique.
Lui, c'est simple, il est vraiment marqué parce qu'on l'a appelé.
Quel âge il a maintenant, Corver?
Oh, il est encore plus âgé que Marcel Van Nogelaf, j'ai pas son âge précis.
Il est né en 36, je s'affiche devant les yeux.
Voilà.
Ouais.
Alors lui, c'est simple, on l'a appelé, on lui a dit bonjour à la télévision française, il a raccroché. Non, mais je sais, c'est-à-dire qu'il le porte en lui.
T'imagines comment il porte en lui?
On n'est pas les premiers à l'avoir appelé, je pense, surtout les médias français.
Mais je crois pas qu'on l'ait réentendu ou lu, Corver. T'imagines,
il est resté assez discret.
Le truc aussi qu'il faut dire, c'est souvent le nom même de l'arbitre, tu ne l'oublies pas.
Oui.
Corver, moi, ça m'a. France. Séville 82.
Vous auriez dû appeler, prendre Corver, l'accent allemand, tu dis Monsieur Schumacher, peut-être qu'il aurait parlé.
Non, bon, attends, excusez-moi.
Corver, parce que j'ai sa fiche sous les yeux. Le mec a arbitré plus de 600 matchs, il est néerlandais. Hein. Il a arbitré plus de 600 matchs dans le championnat néerlandais. Il a arbitré près de 150 matchs internationaux. Il n'y a pas que France RFA dans sa vie.
Bah oui.
C'était un cadeau de l'arbitrage.
Et Van Langenhove aussi.
La plupart des arbitres, ce ne sont pas des mauvais arbitres, sinon ils n'auraient pas arbitré ces matchs-là.
Il y en a un qui est là par hasard. Byron Moreno, c'est
le traumatisme de Daniel.
Non, mais lui, il est tombé du ciel, c'est le vrai. Et c'est d'ailleurs le moins convaincant dans le doc.
L'arbitre d'Italie, Corée du Sud.
C'est celui qui, dans le doc, est vraiment, même dans le doc, c'est un imposteur. Il y a un problème avec lui.
Lui, on l'a choisi par rapport à son histoire qui est complètement folle. C'est-à-dire que c'est un arbitre. C'était un arbitre un peu déluré en Amérique du Sud, en Équateur, et puis il s'est mis à arbitrer les matchs d'abord là-bas. Il mettait des cartons rouges à tout va et on l'appelait le justicier.
Raconte l'histoire de son surnom, le justicier. Parce que le Italie-Corée, dans son histoire, c'est presque anecdotique par rapport au délire
Le justicier, il distribue des cartons rouges à tout va. Il y avait un match qui n'est pas arrivé à son terme. Il avait mis 5 cartons rouges à une équipe.
Mais il était content de te le dire. Et ouais, bon, on m'appelait le justicier. Il y a un match, on n'est pas allé au bout. J'en
ai trop sorti.
5 ou. Enfin, non, ils ont 8 et à 7.
Ah oui, tu peux pas.
Et c'est quoi ce guignol? Voilà. Et le match où il pousse jusqu'à là, combien? La minute?
Il rajoute 16 minutes de temps additionnel.
16 minutes de temps additionnel, parce qu'il y a une équipe qui fallait qu'elle revienne.
Ça s'est vu, PSG Strasbourg récent, ça.
Mais voilà, lui, il a une histoire assez particulière et c'est tous les effets collatéraux qu'il y a sur nous.
C'était pas
après,
Moreno.
Italie-Corée.
C'est Bruno Derrien.
Italie-Corée, c'est le début. Italie-Corée, c'est le début de sa descente aux enfers. Et là, c'est une histoire vraiment humaine. Et c'est
oui, parce qu'il a fait de la prison, Byron Moreno.
Voilà, pas pour l'arbitrage, pour d'autres affaires, peut-être que vous le verrez dans le documentaire. Mais en tout cas, voilà, lui, il avait une histoire complètement folle et c'est pour ça qu'il fait partie de ce documentaire. On s'est dit, on peut pas le louper.
Oui, il est pathétique quand il accepte l'oseille de la télé italienne pour aller témoigner là-bas. Il se fait rouler dans la farine devant tout le monde. Lui, c'est le seul, parce que
il a enchaîné les mauvais choix.
Ce qu'il faut dire, c'est que le doc est très humain. Pour nous ici, qui sommes anti-VAR, par Jérôme qui a plus mesuré.
Je vais en parler tout à l'heure parce que
nous, on est l'aspect humain est fort. Van Langenhoff, c'est très dur de pas être ému parce que tu vois bien que sincèrement, il a foiré. Il a pas vu la main. Ça appartient à l'histoire du foot. Il explique bien. Tu vois, voilà.
Tiens, on a l'extrait. Vous voulez qu'on l'écoute? Donc l'arbitre de Benfica OM, donc dans le doc à revoir sur RMC Sport en replay.
À ce moment-là, mon erreur, c'est finalement de jouer plus l'homme que le ballon. Et je pense que le fait de le tenir, c'est ce qui amène ce réflexe.
Boum, elle est dedans. Alors on réclame une main, tout ce qu'on veut, mais quand tu l'as pas vu, c'est tout. Hein.
Je le vois bien tendre le bras comme ça et prendre le ballon de l'avant-bras pour la mettre au fond. Et je me sens responsable sur le coup parce que je pense vraiment que si j'avais attaqué le ballon avec lui,
c'est pas eux la victime, hein. c'est l'homme en noir qui était le méchant, hein. C'était pas eux, hein. C'est facile hein, de lever la main, ça je sais faire aussi, hein.
Et ce qui est touchant dans son histoire, c'est que c'est le seul aussi. Les autres ont été menacés, tout ça, mais lui a été accusé de corruption. Lui, ce que Tapie lui fait, c'est dégueulasse, clairement.
Il ne le cite pas, d'ailleurs.
Hein. Il peut même pas dire son nom. Ce que Tapie lui fait, c'est abominable, mais bon, c'est pas étonnant.
Oui, quand Tapie dit après la fameuse phrase...
C'est bon, j'ai compris.
Et en plus, il s'en est servi pour s'excuser de toutes ses turpitudes postérieures. Voilà, lui est touchant. Évidemment qu'on ne croit pas une seconde qu'il a fait exprès, qu'il était corrompu, qu'il a voulu enfiler l'OM. Il s'est gouré, tout le monde l'a vu. Oui, le but aurait dû être refusé. Voilà.
Alors, si vous entendez Eric Dimeco, pour ceux qui découvrent cette action, c'est parce qu'Eric était au marquage de Vata. Ouais, il est juste derrière lui. Voilà.
Son marquage serait
c'est lui le fautif. De toute façon, on le dit depuis le début. Hein. Mais il en est conscient. Hein.
Dans la liste que tu avais, donc Corver a raccroché, il y avait d'autres trucs comme ça. On peut dire que l'arbitre de Barça-PSG était d'accord pour parler, mais que l'UEFA a refusé.
L'UEFA n'a pas refusé, c'est juste qu'on n'avait plus assez de temps après par rapport à la diffusion pour négocier avec l'UEFA.
Parce que moi, j'ai toujours cru que l'UEFA avait refusé.
Non, l'UEFA n'a pas refusé.
Parce que j'ai répondu ça à un mec sur Twitter qui m'a posé la question.
Ah oui, non, c'est pas précisément ça. Alors. Donc Denis Aitekin était intéressé à l'idée de nous parler, mais il fallait qu'on tombe d'accord avec l'UEFA. On était en pleine période de fête.
Mais il arbitre encore, lui.
Il arbitre encore.
Bah ouais, c'est pour ça.
Je pensais que c'est parce qu'il était en fonction.
L'UEFA doit donner l'accord.
Ah oui.
L'UEFA doit donner l'accord pour qu'il puisse parler.
Ok, alors j'ai mal compris.
Et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps dans le niveau du timing par rapport à la diffusion d'aller discuter avec l'UEFA.
Ça se trouve, l'UEFA aurait dit non, il est là.
Peut-être que remise, hein.
Continuons la liste, Adriano. Tu nous as parlé de Van Langenhoff, de Byron Moreno.
Alors, il y a une affaire avec Urs Meyer. Alors, ça, c'est pas en tant que telle une erreur d'arbitrage, mais c'est ce qui montre tout le dérapage médiatique qui impacte directement une personne. C'est lors d'un Portugal-Angleterre à l'Euro 2004 où il refuse un but à la 89e à l'Angleterre.
Ouais, le but de Sol Campbell.
Le but de Sol Campbell qui aurait permis à l'Angleterre de passer. Et finalement, bah, c'est Ricardo qui arrête au tir au but à la fin. Vous vous rappelez sans les gants le penalty.
Là, pour moi, je vois pas où est le truc du scandale d'arbitrage. Non. On voit bien que John Terry fait en sorte de bloquer un peu, genre qui siffle faute, c'est pas.
Mais c'est tout l'effet collatéral qu'il y a eu derrière, tous les effets collatéraux par rapport à la presse anglaise qui est partie directement à la rencontre de sa famille. Lui avait dû être exfiltré du Portugal, il avait pris des voitures privées, il a dû se cacher pendant 10 jours. Bref, lui, c'était complètement fou. C'est lié à tout le dérapage médiatique. Et peut-être que là, on peut se poser la question en tant que journaliste, est-ce qu'il ne faut pas qu'on contrebalance ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse un petit contrepoids parfois ? Est-ce qu'on n'est pas responsable aussi des grandes erreurs d'arbitrage de par notre manière de traiter celle-ci après ? Voilà, c'est un petit peu le.
Ça dépend desquels.
Ça dépend desquels, bien sûr.
C'est-à-dire, par exemple, Corver, Harald Schumacher, Battiston, il n'y a pas besoin de monter en épingle quoi que ce soit derrière. Je veux dire,
Oui, bien sûr. Mais je parlais humainement, en fait, quand on pense à l'être humain.
Après, les Anglais, ils sont spéciaux quand même là-dessus.
Y a des tabloïds.
Eux, c'est les spécialistes
en fait, c'est
pour aller pourchasser les gars jusqu'au fin fond de leur.
C'est-à-dire, voilà, c'est expliqué plus en détail dans le documentaire, mais ils sont partis voir le fils, par exemple, d'Urs Meyer pour lui proposer de l'argent. Donc, ils l'ont soudoyé, ils l'ont proposé des places pour des matchs anglais, afin qu'il raconte des histoires, quel était son joueur préféré, ils cherchaient la petite bête. Ils sont partis voir l'ex-femme pour qu'elle dise de mauvaises choses sur Urs Meyer. Bref, lui, il en a vraiment souffert.
Et vous avez tenté l'arbitre. Évidemment, de la main de Dieu.
De la main de Dieu, Ali Benasseur.
Benasseur.
Et Argentine, en 1986.
Il y a quand même mieux qu'un arbitre tunisien pour arbitrer ce genre de match.
C'est ce que Thierry Roland avait dit à l'époque.
Ali Benasseur, on l'a tenté. Lui aussi était d'accord. Donc pour d'autres raisons.
Il y avait d'ailleurs une petite parenthèse parce que qui a évalué Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. C'est allé très loin. Il y a eu suite à cette phrase, incident diplomatique.
C'est vrai que tu peux quand même.
Convocation par la direction de TF1 à l'époque. Ça avait été très très loin, cette affaire de la phrase de Thierry Roland sur l'arbitre tunisien.
Oui, ça avait été loin. Mais c'est ça aussi. On se rend compte que. Parfois, les dommages collatéraux des erreurs d'arbitrage ne touchent pas que les arbitres, mais aussi, par exemple, pour France-Irlande, les joueurs. C'est Thierry Henry qui est devenu le méchant de l'histoire dans France-Irlande. Tout s'est reporté sur
d'ailleurs,
lui.
Benasseur, l'histoire, alors que comment ça s'est fini, il voulait.
Ali Benasseur, c'était.
Parce que c'est la plus grosse peut-être de l'histoire celle-là.
C'est peut-être la plus mythique, l'une des plus mythiques, mais dans l'idée la plus mythique parce qu'elle a créé la légende Maradona, la main de Dieu. Lui, ce sont d'autres raisons qui ont fait qu'on n'ait pas pu l'avoir. Il était initialement d'accord, ensuite il a essayé de trouver des petits arrangements. Bref, ça ne s'est pas fait.
Il voulait du blé.
Ça ne s'est pas fait.
En même temps, c'est devenu un personnage historique. Quoi. Il a voulu monnayer le souvenir. Il avait rencontré Maradona lui en plus. Comme quoi, cette légende a construit aussi son personnage.
Alors les gars, on va continuer le débat et on a Benjamin au 32-16 qui nous attend. Il est arbitre de tennis, il a regardé le doc, donc il va nous dire ce qu'il en pense dans quelques instants. Donc si vous aussi, vous étiez par exemple, je sais pas, au stade pour la Manvata ou pour France-Irlande par exemple,
la question, appelez-nous. C'est en fait votre erreur à vous, quoi.
Voilà.
Celle qui a le plus marqué votre vie.
Jérôme va nous dire s'il a été victime dans sa carrière d'une erreur d'arbitrage qui aurait pu lui faire gagner un titre. Pourquoi pas. Il va nous dire ça dans quelques instants.
Il y en a qui était pas loin de nous la dernière fois. Je le dirai.
Me laisse tranquille, Bruno, un petit peu.
Ouais, mais c'est la vérité.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 21h30. L'after
foot,
Gilbert Bribois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Adrien Auréquin avec nous ce soir donc pour le doc. Erreur qui remémore donc dans le détail et avec des témoignages exclusifs, quelques-unes des grandes erreurs d'arbitrage de l'histoire du football. On va continuer d'en parler, mais d'abord on accueille Benjamin au 32-16 qui est avec nous. Salut Benjamin.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ?
On t'entend très bien.
Bonsoir l'after.
Tu as vu le doc ?
Ouais, j'ai vu le doc, j'ai adoré, c'était vraiment, vraiment fantastique.
Merci beaucoup.
Ah, tu arbitres, mais pas de foot, hein ?
Ouais, moi j'arbitre dans un sport qui parlera à Daniel et Jérôme.
C'est quoi ?
Le tennis.
Ah ouais, ça me parle bien, moi. Daniel, un peu moins.
Un peu moins, ouais, j'ai cru comprendre, ouais.
Ah, il est plus facile à arbitrer, Daniel, ça va moins vite, la balle.
Ouais, puis elle sort de plus, non, c'est ça ?
Ouais.
C'est quoi ?
Hein ? Non, ben, moi, dans le reportage, ce qui m'a un peu marqué, c'est sur le match Angleterre-Portugal. Cet arbitre qui dit qu'a raison, d'ailleurs, hein, parce qu'il fait pas une erreur, il y a bien faute de Rooney, on est tous d'accord là-dessus. Et qui dit que pour lui, il se passe quelque chose de pas normal. Il voit pas les mains du gardien, il se dit il y a quelque chose de pas normal, c'est pour ça qu'il refuse le but.
Il siffle sur une intuition.
Exactement, exactement. Moi j'appelle ça au tennis arbitrer à l'attitude.
Ah,
et c'est quoi ça, raconte-moi ça.
Eh ben, tu sais, enfin, t'arbitres. Hein, moi, je me retrouve tout seul sur ma chaise là-haut, et puis moi, je joue depuis que j'ai 8 ans. Et le type qui entre guillemets, tu sais, arrête la balle, grosso modo, elle est faute quoi. Ouais. À l'attitude, tu sens dans son attitude qu'il la voit honnêtement faute, et donc, eh ben, tu dis faute quoi. Mmh.
Après, ouais. Dans le documentaire, Darius Vassell...
Daniel a l'air moyennement convaincu.
Mais... Non, mais Darius Vassell, dans le documentaire, qui était un joueur anglais à l'époque, dit ça, quelque chose de vrai. Est-ce qu'on peut siffler quand on n'a pas vu? Quand on ne voit pas?
Ben après, c'est la question, est-ce que les arbitres de football actuels ont un vrai ressenti? Est-ce que c'est d'anciens joueurs? Est-ce que c'est des gens qui ont passé du temps sur le terrain? C'est ça que je me demande des fois.
Non, mais en fait, il y a un truc, moi, je voulais en arriver là. Maintenant qu'on s'est remémoré quelques erreurs, évidemment, dont tout le monde se souvient globalement, à part les plus jeunes, mais bon, vous avez tout ça sur YouTube et tout, allez-y. Et puis, il y a tout ça dans le doc aussi. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est grave? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, pour moi, ça fait partie de l'histoire du foot.
Surtout, ça a marqué l'histoire du foot.
Ça a marqué l'histoire du foot.
Et mais ça appartient à la même histoire.
Est-ce que c'est grave?
Les grands matchs, les erreurs de l'arbitrage.
Non, mais tout ça, maintenant, avec le recul, c'est sur le moment, ça fait des étincelles, machin, mais au fond.
Mais pour toi, c'est pas grave, mais pour les acteurs, bien sûr que c'est grave.
Oui, mais le temps passe, Jérôme.
Mais quel temps passe? Mais quand tu te fais fourrer un titre ou une qualif importante, bien sûr que
mais,
tu.
Non, mais le foot, c'est ça. Le foot, c'est un attaquant qui tire à côté. Bon rôle, mais, c'est un arbitre qui fait une erreur.
Mais parce que toi,
c'est un coach qui fait n'importe
t'es
quoi.
T'es assis sur une chaise et tu commentes le foot, tu le regardes, bien sûr. Mais quand t'es acteur, n'importe quel sport, de toute façon,
il n'y a pas de. N'importe quel sport, il y a n'importe quel niveau. Mais ça fait partie du jeu.
Ouais, encore plus au niveau professionnel. Parce que c'est ton boulot.
J'ai lu les témoignages des Anglais Maradona, j'ai lu les Français de 82, l'histoire en fait les a ils sont entrés dans l'histoire aussi.
Ouais, grâce à ça.
Grâce et à cause de ça.
Ouais. Il y a quelque part,
le temps a lissé tout ça dans leur tête et ça fait partie de leur boîte à souvenirs finalement.
Non mais
regarde la génération Platini.
En fait, il n'y a
qui est né un peu avec ça.
La VAR a voulu enlever quelque chose.
Mais arrêtez conneries, la génération Platini, on aurait aimé qu'il soit champion du monde.
Mais je peux comprendre ton sentiment. Le foot était le seul sport qui offrait cette dimension humaine de l'acceptation ou non de l'erreur.
Ouais.
Le seul sport qui faisait que ça ressemblait à la vie. Voilà. Avec ses injustices, c'était ça. C'est ça que la VAR a voulu gommer en disant que la vérité serait la même pour tout le monde.
Ouais.
Par exemple, savoir qu'en Argentine ou en Amérique du Sud, on va dire qu'il y ait des cultures différentes dans l'appréciation d'une erreur, de ce que veut dire être un roublard ou ne pas l'être, dans l'acceptation de ce qu'est la vérité ou non, moi je trouve que c'est toute la dimension universelle du football. Le VAR et les Anglo-Saxons ont voulu gommer tout ça. Et on dit, ce sera comme ça,
il y aura justice.
Moi, j'ai toujours considéré que le foot, au-delà du fonctionnement ou non, que le foot était universel et était grand, parce qu'il acceptait les différences de culture. Parce que justement, un arbitre tunisien a arbitré Argentine-Angleterre. Alors que sur le coup, quand Thierry Roland le dit, certaines personnes devant la télé ont pu se dire... c'est pas parce qu'il était tunisien qu'on veut pas comprendre ce que dit Thierry Roland. C'est mais pourquoi ils n'ont pas pris un arbitre qui a l'habitude, tu vois, d'arbitrer la Coupe d'Europe, le machin et tout ça. Eh ben non. La Coupe du Monde, l'universalité du football a fait qu'un arbitre tunisien, avec ou sans expérience, j'en sais rien, parce que je suis incapable de dire quelle était l'expérience de Bennacer à ce moment-là, a arbitré un quart de finale de Coupe du Monde qui a marqué l'histoire à tout jamais.
Non, mais on est d'accord. Mais là-dessus.
L'évolution qu'ont voulu les Anglo-Saxons, va casser tout ça. Des gens qui ne sont même pas de la culture foot.
C'est
une culture américaine. Moi, ça, je le déplorerais pour toujours. C'est une approche philosophique.
Oui, parce que j'aurais pour toujours. Parce que ton émotion va être.
Moreno est peut-être le mec qui m'a fait le plus mal.
Mais
je veux me souvenir de ce truc-là.
Je veux me souvenir
de l'émotion et de la haine que j'ai eue à ce moment-là quand je me suis dit, ce gars-là est en train de faire un truc pas normal. Ce gars-là, il est. Pour toutes les personnes qui étaient. Alors, quand t'es spectateur comme ça, tu te rends peut-être pas compte. Moi, j'étais là, je me dis, ce soir, il se passe un truc. En plus, c'était pas le soir, c'était l'après-midi.
C'était le matin.
Milieu de journée.
Là, il y a un truc. Je sais pas ce que fait ce mec, mais c'est anormal. Et je sais pas pourquoi il a décidé que ce serait anormal. Et je peux te dire qu'en Italie, il y a encore beaucoup de gens qui l'insultent. Ce mec-là, son nom est connu. Il y a des chansons sur ce gars-là. Et ben ça, je pense que ça fait partie de l'histoire
du
foot.
Mais bien sûr que ça fait partie de l'histoire du foot. Et encore une fois, moi je vais pas contre ça. Je veux dire, tu me parles de 82. Pourtant, j'étais gamin. C'est plus après en voyant. J'étais vraiment petit. J'avais 4 ans. Donc c'est après les souvenirs parce que j'ai vu les cassettes. J'ai
raconté.
Exactement.
Tu souffres de ça.
Bien sûr. Mais même toi, quand tu le regardes, tu souffres en tant que citoyen français. Tu vois ça, tu te dis merde, c'est pas possible. Donc bien sûr que tu souffres. Moi je te parle juste quand t'es acteur, que t'es joueur. Bien sûr que ça te laisse des souvenirs ou quoi que ce soit.
Non, mais je conçois que c'est une cicatrice.
Et que pour moi, et c'est pour ça que je suis partisan du VAR. Alors attention, hein, je suis pas un fan absolu de comment il l'utilise aujourd'hui. Hein. On en est là, et surtout avec vous. Donc maintenant, j'arrive
après,
à faire
empêcher des scandales mais, comme
exactement.
La main de Kipembe, tout ça. Donc,
mais l'émotion, il y en aura toujours. Même avec le VAR, de toute façon, il y aura toujours des discussions, quoi que ce soit. Mais par contre, le joueur, les acteurs auront peut-être moins l'impression d'être fourrés, comme ça a été le cas avant. Différemment.
Je crois pas, parce qu'il y a déjà des cas en un an et demi de pratique, il y a déjà des cas.
Oui, mais sur les cinq erreurs là, que vous avez prises, franchement, si t'as le VAR, les cinq sont corrigées. Ah, il y en aura peut-être d'autres, hein. Mais les cinq sont corrigées. Ben oui, les mains déjà, oui, automatiquement.
Elles n'ont pas corrigé la finale contre la Croatie et la main de Kipembe. Excuse-moi. Elles ont provoqué des scandales.
La main de Kipembe.
Ben, contre Manchester United, on donne main, on donne péno. C'est
un... Oui, non, mais ça,
n'importe l'arbitre.
Oui, mais ça, c'est un
sans VAR, aurait pas.
Non, mais attention, c'est différent. C'est pas un but de la main. C'est pas. Moi, je te parle.
Ça donne une qualif et ça empêche un club d'aller en quart.
C'est ce que je te disais. Les émotions seront différentes. Il y aura toujours un petit peu cette appréhension du.
L'arbitre appartenait à l'histoire de ce match-là. Et il
oui, mais.
Et quelque part, en fait, c'est ce qui rapprochait le peuple supporter, le joueur et l'arbitre. Ça crée une histoire. Toi, pour toujours, même. Alors, vraiment, je le comprends quand tu dis toi, t'es l'acteur. Toi, t'avais ta souffrance. Le supporter à la sienne.
Oui, bien sûr.
Il est lié à toi.
De toute façon, il n'y a pas que le joueur qui souffre.
Et en plus, t'avais l'arbitre.
Oui.
Qui était lié pour toujours à cette histoire-là. Là, moi, je pense qu'on en.
Mais oui, mais pour faire ton deuil, c'est encore. Quand t'es joueur, c'est encore plus.
Benjamin, quel est ton point de vue, là, sur ce débat finalement philosophique, comme on le disait.
C'est différent.
S'il vous plaît. Benjamin.
Moi, si je peux juste rajouter un mot, c'est de toute façon, il y avait péno sur Neymar. Je suis un peu déçu que cela ne soit pas passé dans le documentaire.
Alors, excellent. C'était en Ligue des Champions.
Merci Benjamin.
Qui était l'arbitre là, Neymar, le péno, j'ai oublié.
Ah là, je me souviens pas. On va chercher. Juste, moi, je finis sur l'histoire des 82. C'est marrant parce qu'avec Daniel, on a été sollicité avec d'autres confrères par France Foot là pour remplir un questionnaire sur des histoires qui nous va le lien entre médias et footeux. Et il y a une des questions. C'est quel est le joueur qui vous a donné envie de faire ce boulot? Et en fait, moi, j'ai répondu Harald Schumacher. Parce qu'en fait, j'avais développé une haine pour ce type. Hein. Il fallait comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il a dans la tête pour faire un truc pareil, Donc, ça fait, pour moi, ça fait partie, effectivement, de la légende du jeu. Et en fait, au fond, c'est pas un drame, c'est des leçons de vie, en fait.
Non, mais bien sûr, mais encore une fois, moi, j'ai pas dit que c'était dramatique. Pour toi, et ce qui me paraît logique, moi, aujourd'hui, le rôle qu'on a là, que j'ai là, pour moi, s'il y a eu une erreur, ça fait partie, t'as de l'émotion quand c'est une équipe française ou ton équipe qui se fait fourrer.
Et 82 qui se fait fourrer, ça fait 84 qui gagne, ça fait 86 des matchs exceptionnels.
Encore une fois, on a le bon rôle. Toi, t'avais le bon rôle à l'époque. Moi, je te dis, même si ils se sont créés une histoire à travers ça.
Non, mais il n'y a pas de bon ou mauvais rôle, parce que ça arrive même chez les amateurs.
Souvent. Ouais. Les mecs de l'OM, comme dit Eric, ils l'ont gagné 2 ans après.
Oui, l'Italie a gagné 4 ans après.
Sauf que là, tu me parles de l'équipe de France.
Il y a souvent des retournements. Toi,
l'équipe de France a fini avec Neisner.
Oui, non, mais 82, la génération 82, et on est les premiers à le dire que cette génération-là méritait un titre de champion du monde, au moins s'offrir une finale de Coupe du Monde.
Oui, sans doute.
Et voilà, ils ne l'ont jamais eu, malheureusement.
Bah, ils auraient peut-être perdu en finale contre l'Italie. Hein.
C'était totalement inattendu, la place en
Oui, non.
C'était surprise déjà.
Bon, en tout cas, voilà, c'est disponible donc toujours en replay. Adriano, tu veux rajouter un dernier truc?
Laquelle on n'a pas évoqué? On n'a pas Ovrebo.
Oui, Ovrebo. Ovrebo, lui, c'est intéressant parce que c'est un psychologue, donc il a un recul.
C'est qui, c'est là?
Le Chelsea-Barça de 2009.
La fucking disgrace.
Ah, il a un recul qui est incroyable. Il a une froideur même.
Est-ce
quand il raconte ses fautes.
Les gens, s'il n'y a pas l'expression, s'il n'y a pas
ah bah ça rajoute un peu de dramaturgie. Ça rajoute de la dramaturgie.
Ça rajoute quand même le fait que le mec il ait dit ça comme ça.
Mais lui, il les a enchaînés quand même durant ce match. Il n'y en a pas qu'une. C'est aussi pour ça.
Hallucinant, quand on parle d'histoire du foot, sur ce match-là, c'est vrai qu'après coup, moi je me souviens, c'est le moment où le Barça de Guardiola arrive. Et tu penses quand même que, a priori, le Barça doit pas passer. Est-ce que l'histoire de Guardiola et du Barça est la même après? On sait pas. Frappe à la dernière minute d'Iniesta, qui est pas la plus simple à mettre en lucarne.
Ouais, magnifique. Ouais.
Avant, Chelsea aurait certainement dû marquer sans les erreurs d'Ovrebo. Et l'histoire, elle est. Ça aussi, ça fait partie des histoires du foot, des événements qui provoquent.
Et but de Liverpool contre Wolverhampton. On revient à la réalité d'aujourd'hui. 2-1 pour Liverpool, donc, alors qu'il reste quelques minutes à jouer.
Ouais.
Le Chelsea-Barcelone, ça fait penser au Milan étoile rouge. La première année où Milan gagne la Ligue des Champions, où le match est reporté à cause du brouillard. Ouais. Et Milan se qualifie grâce au brouillard et entame la
De l'effet papillon
Sacchi.
En fait voilà. D'une
décision. Après, ils ont voulu refaire le coup à Marseille avec les projecteurs. C'est les malins, ces Milanais. C'est les malins.
C'est ça.
L'arbitre de PSV Lyon, c'était Kim Milton Nielsen.
Nous
rappelle David qui est où? Qui est de Lyon, bien sûr.
David. Évidemment.
Vas-y pour conclure, Jérôme, rapidos.
Non, mais vous auriez pu mettre aussi la grosse erreur sur Dynamo de Kiev PSG en quart de finale sur.
Quelle erreur?
L'erreur d'arbitrage sur la sortie de Landreau.
Il était
y avait faute. Ah non. Non, il n'y avait pas.
Quel chien. C'est pas possible. Merci Adriano, en tout cas.
Il est pas bousculé.
Ouais, je pense.
C'est le vent. C'est le vent.
Et à bientôt dans l'after. Dans quelques instants, on change d'univers. On va vous raconter l'histoire fantastique du football yougoslave à une certaine période qui était évidemment la plus troublée du pays, mais aussi footballistiquement très intéressante. Vous allez voir ça dans quelques instants à l'occasion de la sortie d'un livre qui est passionnant. C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. N'oubliez pas que Julien Cazard nous rejoint à 23h. N'oubliez pas également que le quiz est là à 23h40. On aura encore pas mal d'actu à vous donner hein, après 23h. Je vous expliquerai notamment après 23h comment Todibo devait s'entraîner face à Messi quand il était encore au Barça il y a quelques jours. C'est assez marrant, assez étonnant. Ce sera tout à l'heure après 23h. Mais pour l'instant, on va se plonger dans l'histoire d'un des footballs les plus talentueux de l'histoire. Oui, parce qu'on parle souvent du Brésil, de l'Argentine, de l'Allemagne, de la France, du Portugal et autres. Mais le football yougoslave, quelle école de foot. Et là, avec nous, Loïc Trégourès est là. Loïc, bonsoir.
Bonsoir.
Je montre ton bouquin, Le football dans le chaos yougoslave. Alors, attention, ça ne parle pas de l'histoire du football yougoslave, bien sûr. Ça parle d'une période très précise, Loïc, à savoir l'éclatement de la Yougoslavie. Et en fait, on constate dans le bouquin que le foot a eu un rôle avant, pendant, après, et était totalement imbriqué dans l'histoire géopolitique finalement.
Oui, l'idée c'était de prendre cette porte d'entrée pour montrer à la fois comment on peut comprendre ce qui s'est passé à travers cette porte d'entrée et aussi comment le football lui-même et ses acteurs, les supporters, les présidents de clubs, les joueurs et les dirigeants politiques qui sont aussi les acteurs du football, ont joué un rôle eux-mêmes dans l'accélération de ce processus.
Alors, juste avant qu'on en parle, prenons la fin, le début des années 90. Hein, alors, rappelez-vous tous, évidemment, pour les plus jeunes, si on se souvient peut-être pas, mais de la Yougoslavie qui est interdite de participer à l'Euro 92. Donc, c'est évidemment le début de la guerre, intervention donc internationale pour évidemment des sanctions, interdiction de participer et tout. Donc, l'équipe qui précède celle-ci, c'est l'équipe de 90, qui était une équipe, moi j'ai la compo sous les yeux, qui perd en quart de finale donc face à l'Argentine au tir au but.
À 10, en jouant à 10.
Mais c'est une équipe, Loïc, qui est extraordinaire, footballistiquement parlant, enfin, c'est dingue. Mais
c'est, quelque part, c'est ça le drame, c'est qu'à la fois en football ou en basket, vous êtes en face de ce qui se fait de mieux. La Yougoslavie en basket remporte l'Euro, la Coupe du Monde, même en 91. L'équipe de football est extraordinaire sur le papier. Et... Mais ça ne crée plus, ou en tout cas, ça crée plus suffisamment de liens dans la société, parce que par ailleurs, politiquement, tout se délite. Et donc, dans toute une partie de la Yougoslavie, tout, ça répond plus, en fait. L'équipe de basket gagne, mais ça répond plus. Il y a cette fameuse dispute malheureuse entre Vlade Divac et Dragan Petrović à cause
sur les deux méga stars de l'époque.
Deux joueurs extraordinaires.
Ouais, qu'on voit dans le documentaire ESPN 30 sur 30. Extraordinaire. Et en football, pareil. Donc, les joueurs racontent comment, tout en étant conscients de ça, eux, ils s'appliquent à ne jamais en parler parce qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur truc. C'est pas qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe, mais ils sont à l'intérieur de ça. Et même à l'intérieur du pays, parfois, on a du mal à y croire.
Cette Coupe du Monde, il y a Isoto pour la gagner, 90. Hein.
Ils font partie des équipes dont on dit qu'elles peuvent aller loin.
Juste, je rappelle, Susic, Stojkovic, Prozineki, Katanec pour le milieu de terrain, par exemple. Devant Zlatko Vujovic, Savicevic, il y avait Darko Panchev, il y avait déjà Davor Šuker qui était déjà dans 90. Mm-hmm. Enfin, il y avait des joueurs de dingue, quoi. C'était une sorte de dream team yougoslave, quoi.
Voilà. Mais alors, et finalement, c'est ce qu'on ressent dans cette histoire. Quand on parle de l'équipe de Yougoslavie, bah, comme le fait souvent Gilbert, comme il vient de le faire, il y a comme une pointe de regret, teintée de romantisme. Ah, ils auraient pu, mais ils n'ont pas pu. Mais au fond, est-ce qu'ils n'ont pas pu tout simplement parce que c'était pas un vrai pays? Et que, comme tu l'as un petit peu expliqué, ou alors j'ai pas bien compris, mais à l'intérieur, c'était un patchwork, mais est-ce qu'ils avaient vraiment tous envie d'être ensemble?
Ah oui, non, on peut pas dire que c'était pas un vrai pays, parce que vous avez différents systèmes, mais la Yougoslavie, on peut pas résumer ça à un truc complètement artificiel qui était tenu par un homme là-haut. Là. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, vous avez les athlètes d'aujourd'hui qui sont de Croatie, de Serbie, au JO, à Rio, ils étaient tous ensemble, donc ils partagent une culture, ils partagent
ils ont tellement
une langue déjà.
Ils ont tellement insisté sur leur nationalisme après. On en a même voulu à Djoko de bosser avec Ivan Isevich. Ils ont tellement insisté. Je me souviens d'ailleurs, je crois que le premier vrai champion post-éclatement, ça doit être Goran Ivan Isevich d'ailleurs, qui affichait tout le temps son bandeau avec drapeau à damier et tout, avant sa sélection de foot en 98. Ils ont tellement insisté sur leur nationalisme qu'on se demande s'ils voulaient être ensemble, parce que s'ils voulaient être à ce point différent et s'ils se sont fait la guerre.
Oui, la difficulté, c'est que, enfin, le système yougoslave a jamais prétendu effacer les identités nationales. Donc, la Yougoslavie, c'était entendu comme une fédération qui a essayé de construire des outils pour aussi créer une forme d'identité citoyenne yougoslave par-dessus les identités nationales, mais sans les effacer. Et donc, lorsque le contexte fait que ça va très mal, les tensions nationalistes reviennent et elles s'expriment dans le sport, comme elles s'expriment dans la littérature, comme elles s'expriment dans les interstices de la société dans lesquels il y a le plus de liberté dans une société autoritaire, dans un régime autoritaire communiste. Et le sport en fait partie, le stade en fait partie. C'est les premiers moments où, enfin, c'est pas propre à la Yougoslavie. Le stade est un endroit de moindre contrôle social où on peut.
Alors justement, il faut que tu nous racontes.
Attends, dernier point sur ce.
On raconte.
Parce que toute propre.
Le match qui a tout déclenché.
Je sais pas vraiment si c'est comparable. Tu me donneras ton avis. Mais pendant longtemps, la sélection espagnole était très très belle. Et quand elle arrivait dans les compètes, elle se délitait. Et moi, je me souviens que quand il gagne, quand il commence à la fin des années 2000 à gagner, Del Bosque disait, en fait, le plus gros souci que j'ai eu, ce n'était pas d'organiser le terrain, ça a été de dissiper toutes les sous-entendus, les divergences entre les Catalans et les autres. C'était de faire en sorte que tout ce qu'il y avait de haine et de séparation entre eux à travers le championnat et tout, en équipe nationale, bah Ramos puisse être avec et Casillas puisse être avec les Catalans et finalement les faire jouer tous ensemble. Est-ce que pendant des années, les Espagnols, bah, s'ils gagnaient pas, c'est parce que dans l'équipe, il n'y avait pas d'amour entre eux, quoi, parce qu'ils étaient différents et parce qu'ils ne s'aimaient pas.
Ah oui, mais est-ce que ça relève du sentiment national parce qu'on est catalan, basque ou je ne sais quoi, ou est-ce que ça relève des fortes rivalités entre Real et Barça, comme il y a pu avoir en équipe de France, entre ceux du PSG et
ceux du Marseille? Absolument. Ouais.
C'est difficile
et
à dire.
Est-ce que justement, on y arrive
plus aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des gros problèmes en Catalogne, ou est-ce que c'est juste parce que c'était une génération extraordinaire avec Del Bosque et que ça s'est fait comme
Del Bosque,
ça?
Il n'a pas inventé le fait de dire que son gros travail, c'était de rassembler les mecs.
Alors bien sûr, mais parfois le football, ça se joue à rien.
Le temps passe. Loïc Trégourès, Est-ce que tout part, comme le dit la légende en Yougoslavie, de ce fameux match à Zagreb entre le Dynamo et l'Étoile Rouge, où bah, les tribunes se transforment en voilà en tribune politique et où ça finit enfin, en
Étoile Rouge
et ça finit en bugila quoi, avec l'intervention de Boban à l'époque. Enfin bref, est-ce que tout ça c'est une légende ou est-ce que c'est vrai?
Non, c'est évidemment une légende. C'est un raccourci qui est qu'on aime bien se raconter parce que d'ailleurs la preuve
c'est symbolique
sur la...
au moins.
C'est la couve, enfin c'est pas Boban lui-même, mais c'est une peinture murale qu'on trouve à Zagreb. Parce que dans l'identité croate, ça fait toujours partie, ce match, et le fait que les supporters, des supporters du Dynamo se soient ensuite engagés dans les premières forces armées croates, ça fait partie intégralement du récit croate sur la guerre d'indépendance et sur la guerre de libération. Donc c'est rentré dans la grande histoire par là. Après, de l'étranger, comme c'est le seul événement qu'on a retenu, mais en fait il y en a eu d'autres pendant toute l'année 90, il y a eu d'autres événements comme ça qui peuvent tout aussi bien marquer symboliquement quelque chose.
Le début du conflit quoi.
Et oui, mais par exemple la Croatie qui n'est pas encore indépendante joue un match contre la vraie sélection des États-Unis en octobre 90. Ça ressemble à un vrai match. Hein. Il y a les hymnes, il y a tout ce que vous voulez. En fait, les Croates ont menti à la FIFA. Ils ont
dit que la Croatie n'est pas indépendante à ce moment-là.
Elle n'est pas indépendante. Sauf que c'est un match qui, pour eux, symboliquement, signifie, en plus, vous jouez contre les États-Unis, politiquement, pour la politique mondiale. Donc, ça signifie pour eux que, symboliquement, ils sont indépendants. Sur le site de la Fédération croate, c'est écrit « Ceci est le premier match depuis notre indépendance ». Et ce qui est factuellement pas vrai. Mais ils avaient dit à la FIFA, non, c'est pas la sélection croate, c'est une sélection de joueurs qui jouent en Yougoslavie. Donc dans les 11 de départ, il y a un Slovène et un Albanais pour faire qui ont joué le jeu, si vous voulez. Mais personne s'y trompe dans le stade. Tout le monde est là pour voir la première équipe de Croatie depuis la Seconde Guerre mondiale où la Croatie indépendante pro-nazie était membre de la FIFA.
Dans quelques instants, on va accueillir avec nous Mecha Bazdarević, qui a fait partie de cette histoire-là, bien sûr, qui était il y a quelques mois.
Il est en 90.
Qui était il y a quelques mois encore sélectionneur de la Bosnie et qui était entraîneur de Paris FC il y a quelques temps et qui va pouvoir lui aussi témoigner le football dans le chaos yougoslave. Vraiment, si vous aimez le foot et l'histoire, vous allez vous régaler. Allez-y. C'est aux éditions Non-Lieu. Voilà. Donc facilement trouvable partout, évidemment.
Un petit éditeur, faut aller chez votre libraire.
Voilà.
Ou aller sur le site du Courrier des Balkans. C'est un petit site internet libre d'information qui vit avec trois bouts de ficelle. Donc ça permet aussi de vivre.
On continue le débat juste après 23h et Julien Cazard nous rejoint tout de suite.
RMC, 21h30.
L'After Foot.
Prairie Bikers here. This message goes out to something very special.
Yes, we're talking to you, chicken.
Maybe we've been seeing too much of each other.
But times have changed, Dave.
We've been cheating on meat.
Thing is, no stocks make veggie dishes so irresistible that cheating on meat is proper tasty.
Our dear chicken, you were the fire in my life, but it's all about you now, aubergine katsu curry. Prepare to be wined and dined, my love.
Cheat on meat with no veggie stocks.